La semaine passée, nous avions commencé par non pas découvrir les œuvres ni le cheminement de Hiram Bingham, mais au contraire, essayer de comprendre comment était constitué Cusco afin de mieux comprendre Machu Picchu. Aujourd'hui, nous allons vraiment prendre les pistes Inca, quelques kilomètres des 12 000 kilomètres que les Incas ont construits en moins d'un siècle pour arriver au cœur même du mystère dans cette cité perdue de Machu Picchu. Aujourd'hui, la piste que Bingham a suivie en 1911 est parfaitement déblayée. C'est une piste audacieuse, très difficile. Je vous rappelle, pour ceux qui étaient là la semaine passée, qu'aujourd'hui encore, il n'y a aucune route depuis la capitale, Cusco. Cusco qui se trouve à 100 km de Machu Picchu, à vol d'oiseau. Il n'y a en fait aucune route qui communique avec le centre, avec la capitale. Il faut descendre le rio qui s'appelle d'abord Vilcanota, qui deviendra, après la vallée sacrée, le fameux Urubamba. L'Urubamba, c'est une rivière qui va se jeter avec l'Apurimac qui va rejoindre l'Apurimac pour former ensuite l'Amazone. Et on sent cette venue de la jungle. Replaçons-nous géographiquement avant de suivre cette piste. On sent déjà cette jungle. Parce que nous sommes partis de Cusco, il fait froid. On est à 3008. On grelotte assez facilement si on tombe dans la mauvaise saison, c'est-à-dire vers la fin de notre année. Il pleut assez fréquemment. C'est un temps un peu maussade, un côté un peu glacial. Il n'y a pratiquement jamais de neige à Cusco, mais on sent ce côté très cru. Et puis, il suffit de passer un petit col, de remonter dans une vallée parallèle pour se retrouver dans cette fabuleuse vallée sacrée qu'on visitera un peu aujourd'hui. Surtout aux alentours de Yucay. Yucay, c'est un véritable miracle. Un miracle parce que tout y pousse. Le plus beau maïs de toute l'Amérique, on le retrouve ici. Quand je dis maïs, songez qu'un grain de maïs des Andenes, j'utilise le terme d'Andenes en espagnol, ça vient d'Andes, mais ça signifie terrasse, ces fameuses terrasses artificielles qui sont en fait les travaux les plus insensés des Incas. Des millions, des milliards de mètres cubes de terre ont été ainsi portés à dos d'homme et placés derrière des murets pour être protégés, irrigués et surtout éviter tout ravinement. Eh bien là, si vous plantez un grain de maïs de la région du Yucay, c'est une noisette que vous plantez. Un grain est aussi gros qu'une noisette. C'est très très impressionnant. C'est le plus beau maïs des 1500 variétés qu'on connaît pour l'ensemble de l'Amérique. C'est aussi là où on retrouve les plus belles pommes de terre. Tiens, voilà quelque chose qui nous vient du Pérou. La pomme de terre, il y en a des variétés infinies. Vous pouvez la voir bleue, orange, jaune, verte, violacée, noire. Vous pouvez la voir petite, immense, de plusieurs kilos. Et puis vous avez ces fameuses pommes de terre que l'on congèle et décongèle plusieurs fois. C'est-à-dire vous les congelez la nuit avec le froid et puis vous les mettez au soleil la journée. Et petit à petit, elles se ratatinent, elles se rétrécissent, elles se lyophilisent. On n'a rien inventé, hein, même avec notre grande fabrique suisse de café. C'est vrai que la lyophilisation d'une pomme de terre chez l'Inca va lui permettre de vivre à longueur d'année, de subvenir à ses besoins, de voyager surtout, et de suivre les pistes avec simplement quelques grammes de pommes de terre qui, avec un peu d'eau, se transforment en kilos de nourriture. Ça, c'est typiquement Inca. Et ça vient toujours de ces laboratoires, pourrais-je dire, de la vallée sacrée et de la région. Tiens, je vais vous donner un exemple. Je fais une petite digression, mais c'est pour arriver encore mieux à comprendre la magie de l'agriculture, du soutien physique qui a permis la vie à Machu Picchu et dans les environs, température à peu près égale à celle où je suis maintenant, il y a un site qui m'a complètement fasciné il y a quelques mois et que j'ignorais complètement. Quand on part de Cusco et qu'on veut rejoindre cette vallée sacrée dont je vous parlais, il faut passer sur un col qui est à entre 4000 et 4200 mètres d'altitude. C'est assez haut, c'est assez froid. Et exactement à 4000, donc une région totalement impossible sur le plan agricole, en toute logique, on retrouve un système de terrasses que je n'avais jamais vu auparavant. C'est que je n'ai jamais vu parce qu'il est, il est fait comme un entonnoir. C'est un système où les terrasses descendent toujours plus profond. Il y avait un endroit naturel en forme d'entonnoir et on descend à plusieurs dizaines de mètres, même en dessus de 100 mètres. Je crois qu'il y a le point le plus bas est à peu près à 3800 mètres d'altitude. C'est vraiment le fond de l'entonnoir. Et il y a des terrasses comme cela, de manière concentrique, qui viennent en augmentant jusqu'au bord supérieur. Alors, moi, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire parce qu'un archéologue américain a fait ce qu'on fait beaucoup maintenant. Là, on a commencé en France avec la préhistoire et le roi Gourand pour du magdalénien, c'est-à-dire aller rechercher dans le fond d'une grotte ou ici, sur chacune de ces terrasses, à chaque étage de ces terrasses, on a recherché les pollens. C'est-à-dire qu'on a recherché, en fait, ce qui avait pu être cultivé sur chacune de ces terrasses. Et vous savez ce qu'on a retrouvé dans cet entonnoir? Tout ce que le Pérou produit. C'est-à-dire qu'au fond, il faisait assez chaud pour avoir des produits tropicaux, et en haut, il faisait assez froid pour avoir les pommes de terre qui poussent à plus de 4000 mètres d'altitude. C'est-à-dire que vous aviez, en somme, de manière comme dans une culture maraîchère ou un laboratoire maraîcher, on avait reproduit sur chacune des terrasses tout ce que l'Empire pouvait produire sur le plan agricole. Ça, c'est encore très inca. Ça vous démontre, simplement par cet exemple, que ces gens-là ont inventé la pomme de terre, ont inventé le bon maïs. Parce que la pomme de terre, au départ, est immangeable, elle est poison. C'est donc un travail de précolombien, même avant les Incas, bien sûr, mais c'est aussi et surtout un travail inca d'arriver à produire le meilleur pour que tout le monde vive. On avait même inventé, là je fais encore une autre digression, mais qui est intéressante parce que ça vous fait petit à petit pénétrer dans cette mentalité indienne. Quand on visitera, on le fera certainement une fois, les petites vallées de la côte, on avait par exemple une culture qui s'appelle la culture Moshika. Les Moshika nous ont laissé des céramiques incroyables et on a remarqué, parce qu'au début, au 19e, au 20e, on n'osait pas, que tout ce qu'on appelle les céramiques érotiques, qui étaient bien cachées au fond des armoires des bonnes familles péruviennes, parce qu'on en a trouvé des milliers et des milliers dans les tombes, tous les sujets sont bons en céramique péruvienne. Il y a une invention, une imagination tellement fertile qu'on a l'impression que chaque potier était drogué du matin au soir. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces petites céramiques érotiques, où vous avez Madame dessous qui vous regarde avec un petit regard un peu éteint et Monsieur dessus en pleine action, eh bien, on remarque bizarrement que ces gens-là avaient déjà inventé, c'est pour ça que je parle d'agriculture, c'est pour ça que je parle de population, avaient inventé la contraception. C'est-à-dire que ces gens-là ne faisaient pas des bébés. Il s'amusait d'une autre manière pour éviter d'avoir des bébés. Bon, on l'avait pas vu tout de suite. On n'avait pas remarqué effectivement que ces gens-là ne faisaient pas un acte naturel. Et qu'en fait, si on les a mis dans de l'argile, si on les a pétris dans l'argile, si on a voulu montrer un couple qui faisait ça de manière un peu anormale et qu'on a enterré ces céramiques à côté d'un défunt, c'est que c'était vraiment une règle qui vous disait attention. Si vous voulez tous vivre dans un milieu aussi hostile, aussi difficile, prenez la pilule. Vous me passerez l'idée, mais c'est un peu ça. Ça vous montre une fois de plus que ces gens-là avaient une rigueur sociale extraordinaire, puisqu'on pouvait même interdire au peuple d'avoir trop d'enfants, simplement pour que tout le monde vive bien. Ça, c'est une chose très précolombienne, c'est une chose très inca. Et Machu Picchu, par son côté rétréci, son côté enfermé, son côté secret, par cet espace complètement fermé, mais je crois qu'on sent également cette volonté d'utiliser un morceau de nature, l'endroit géographique de Machu Picchu, de manière magique, et surtout d'arriver à tout dire dans un espace que la nature vous a offert qui est très restreint. Ça, je crois que c'est ce que j'aimerais qu'on puisse ressentir en une heure, c'est arriver à saisir, non pas ce que Bingham n'a pas forcément compris, mais en tout cas saisir et comprendre ce que nous savons et pouvons savoir simplement en ouvrant l'œil, en visitant, en parcourant, en suivant le labyrinthe à l'intérieur de Machu Picchu. Thank you. précision que la piste que Bingham a suivie avec sa mule en 1911 est aujourd'hui parfaitement déblayée. Mais en fait, elle est surtout occupée maintenant par ce petit train, ce fabuleux petit train que le monde entier connaît, qui part de Machu Picchu aux aurores et qui vous amène au pied de Machu Picchu, c'est-à-dire 700 mètres en dessous du site, dans cette petite gare où l'on entend encore gronder ce fleuve, que l'on a suivi sur quelques kilomètres. C'est-à-dire qu'on est parti de Cusco, on a grimpé, on a fait un col, on a replongé dans la vallée sacrée, et à partir d'Ollantaytambo, c'est un nom que vous entendrez souvent, c'est vraiment la porte de la jungle, c'est le dernier site important de la vallée sacrée, cette vallée qui est très plane, comme ça, toujours entre 3009 et 3008 d'altitude, et tout à coup, là, sur quelques dizaines de kilomètres, vous allez descendre d'un seul coup comme sur un toboggan à 2000 mètres. Et vous allez voir à côté de vous l'eau qui commence à bouillonner, on rentre vraiment dans des rapides incroyables. Et on sent qu'on avance vers la jungle parce que tout à coup, on sent la température qui change. Moi, je n'aime pas tellement prendre le train des touristes parce qu'il s'est un peu changé en aquarium de verre. C'est-à-dire qu'il est parfait pour voir à l'extérieur, mais on se sent un peu enfermé. Moi, j'aime bien prendre le train des indigènes qui vivent beaucoup plus bas encore dans le côté de la jungle parce que ce train continue beaucoup plus loin et de pouvoir m'asseoir sur le marchepied avec tous ceux qui n'ont pas de place à l'intérieur des wagons. Et là, vous sentez le vent chaud qui arrive, vous sentez cette différence climatique. Tout à coup, vous voyez les orchidées, vous voyez que les falaises s'habille carrément d'une nouvelle végétation, que la mousse devient de plus en plus exubérante. Et puis, vous avez tout à coup juste un kilomètre avec des palmiers, avec des choses incroyables à 3000 mètres ou à 2005. Et puis ensuite, on revient à un climat froid. Et vous avez des petites poches comme ça, des microclimats tout au long de cette vallée. Et puis, on sent petit à petit que les sommets grimpent toujours aussi haut. On sent surtout petit à petit que ces falaises n'ont rien perdu de leur côté difficile d'accès. On aperçoit entre deux sommets, des sommets qui sont beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, on voit encore ces cimes enneigées, on découvre la Véronica, enfin les plus beaux sommets qui sont autour de Machu Picchu. Et si vous grimpez vraiment au sommet même du Huayna Picchu, dont on reparlera tout à l'heure, parce qu'il faudra bien situer un peu les lieux sacrés, là tout à coup on découvre non seulement la jungle et ce grondement toujours incroyable à 700 mètres en dessous de vous, c'est ce côté vertical, cette plongée absolue. Une fois que vous êtes au sommet du Huayna Picchu, vous êtes entouré carrément par la rivière qui fait un immense demi-cercle et qui enferme complètement le site. Le jeune pic, c'est l'aboutissant, si vous voulez, et c'est là qu'on a construit le temple dédié à la lune, dans un endroit complètement impossible. Et vous découvrez en même temps l'horizon, ces immenses sommets granitiques, et tout au fond, partout de la neige et des sommets absolument blancs. On est dans un cirque, on est vraiment près des dieux, on est dans un endroit absolument fabuleux. La dernière fois, je parlais de cet enfant qui était mort de froid à plus de 6000 mètres d'altitude, même à Machu Picchu, les pieds au chaud et la tête au froid, à cause des yeux qui voient l'horizon, on sent qu'on a vraiment tout le monde inca sous ses yeux, tout ce que les dieux ont pu laisser à l'Empire. Ça, je crois que c'est une image qui reste. Et en partant maintenant sur les traces de Bingham, on va descendre cette Urubamba et au bout du voyage, on va, à partir du train aujourd'hui, devoir prendre une espèce de minibus, enfin... Moi, je l'appelle plutôt bus trompe-la-mort parce que on n'a que 9 kilomètres à faire en zigzag pour arriver près de l'hôtel Tourista qui est construit à l'entrée des ruines. Mais ça tient souvent de du parcours du combattant. On a toujours l'impression qu'on n'arrivera jamais en haut parce que ces gens-là conduisent extrêmement vite et de manière dangereuse. Puis quand vous redescendrez de Machu Picchu, votre dernier petit regard ira surtout à ses enfants, ces petits indiens qui tentent de gagner quelques sous parce que nous sommes plusieurs milliers à aller chaque jour à Machu Picchu et je vous conseille de dormir à Machu Picchu ou alors de dormir carrément dans le petit village qui est en bas, de sauter dans le premier lit que vous trouverez dans ces chambres à 8 ou 10 lits et de vous installer parce que ça vaut vraiment la peine. Vous allez accompagner ces enfants qui gagnent leur vie en courant justement d'un lacet à l'autre et chaque fois qu'il arrive au lacet suivant, vous arrivez avec le bus et il hurle et puis tout en bas sur le dernier pont de l'Urubamba, il viendra vous retrouver et sera avant vous à la gare en ayant couru ces 700 mètres en chute libre pratiquement à travers les pistes que Bingham a suivies avec sa mule pour vous demander quelques petits sous avant l'heure du train. Machu Picchu, c'est un lieu qu'il est bon, je trouve que c'est un peu difficile de le décrire parce que quand on est là en bas, on se demande bien où sont vraiment les ruines. On se demande aussi pourquoi on est venu là, parce qu'on a l'impression d'être au bout du monde et qu'en fait c'est complètement aberrant d'avoir construit quelque chose aussi loin de tout. Et puis c'est peut-être à cause de cette sensation de la jungle, de ce monde inconnu qui est plus loin, qu'on commence à avoir une première solution et qu'on se dit qu'après tout c'est peut-être simplement la porte de quelque chose, la surveillance de quelque chose, l'assurance, comment dire, l'assurance d'être protégé de quelque chose. Je pense que tout part de l'Amazone, comme si l'on... Je compare toujours les Incas à une mousse microscopique qui est née au fond d'une armoire et qui par hasard va créer la plus grande civilisation de l'Amérique du Sud. Mais cette mousse, elle a été engendrée par l'Amazone, même si elle se trouve à 4000 mètres d'altitude ensuite. C'est parce que Machu Picchu existe, c'est parce qu'à moins de 100 km de la capitale, vous êtes dans la jungle, dans la chaleur, et que vous avez tous les produits tropicaux les plus impossibles. Je pense aux plumes, je pense à tout ce que va produire et offrir la jungle pour faire vivre l'Empire. Je crois que c'est ça, Machu Picchu, c'est cet appel de l'inconnu, et puis en même temps, cet appel de l'origine, parce que les Indiens sont tous nés de l'Amazone. La dernière fois, je vous ai décrit Cusco comme étant un fantastique jaguar. Il n'y a jamais eu de jaguar à 4000 mètres d'altitude. Si ce dieu est resté un dieu à 4000 mètres d'altitude, c'est parce que dans la mémoire de tous les Indiens des Andes, ils ont un jour vécu dans leur jardin d'Éden qui ressemble au jardin où vivent encore les tribus du Brésil, c'est-à-dire l'Amazone profond. Ce sont des gens qui sont partis de ces petites tribus un peu plus sauvages, un peu plus magiques, un peu plus sorcières, pour petit à petit aller grimper. Vous vous rappelez de la première image d'Aguirre ou la colère de Dieu ? On en reparlera de cette aventure extraordinaire. Bon, au lieu de descendre vers l'Amazone, ces gens-là ont grimpé et se sont petit à petit installés sur les sommets. Et Machu Picchu, c'est vraiment la transition par excellence. C'est un peu le poste de guet, c'est un peu ce qui correspond en fait à l'attente de l'inconnu. Et ça me rappelle une phrase de Kipling. Si j'en parle, c'est parce que c'était la phrase préférée d'Hiram Bingham. Et elle dit, je l'ai carrément noté, « Marche et cherche derrière les montagnes. Il y a quelque chose de caché, de perdu, qui t'attend. Va et trouve. Va et trouve-le. » Ça, c'est vraiment, je crois, l'idée gravée dans la mémoire de Bingham, qui est ce jeune étudiant d'Hawaï, qui vient de Yale, puisqu'il a fait ses études aux États-Unis, c'est son obsession. Il sait qu'il doit exister quelque chose. Dès qu'il a touché le côté Inca, dès qu'il a lu les premiers chroniqueurs, il est absolument persuadé qu'il va trouver autre chose et qu'il n'y a pas eu que Cusco, mais qu'il y a eu plusieurs autres villes importantes, plusieurs autres sites importants, plusieurs cités perdues que les Espagnols n'ont jamais rencontrées, n'ont jamais vues. On sait aujourd'hui que c'est peut-être pas totalement vrai. Mais après tout, ça lui a permis de trouver certainement la chose la plus connue de toute l'Amérique du Sud.
Los anchos quedan.
Je n'aime pas beaucoup les dates, mais j'ai un système à tiroir. Et quand j'ai besoin d'une date, elle sort toute seule. Je me rappelle que Hiram Bingham est né en 1875. C'est quelqu'un qui, déjà, à l'âge de 30 ans, va connaître le monde inca. Je veux dire par là qu'il est, il est parti déjà en 1905 pour traverser d'abord les Andes du côté vénézuélien. On sait que c'est une immense cordillère qui part depuis le Venezuela, depuis la Colombie, comme une sorte de main ouverte à la hauteur de la Colombie, qui petit à petit se resserre en deux cordillères et qui continuera à descendre de plus en plus bas jusqu'au Chili, jusqu'à la Terre de Feu, pourrait-on dire. Donc c'est vraiment l'épine dorsale. Il commence par le Venezuela, il pénètre en Colombie, et il va faire tous ses voyages d'ailleurs à dos de mule. Il va laisser un peu de côté les lamas, les alpacas, enfin toutes ces petites bestioles et ces camélidés sympathiques, parce que ça n'est pas un animal, rappelez-vous du capitaine Haddock, ça n'est pas un animal très facile à utiliser. Le lama ou l'alpaca, enfin le lama surtout, ne supporte pas plus de 20 kilos et ils ont des pattes extrêmement fragiles. Tandis que les bonnes mules espagnoles, bon, elles ont souvent le vertige, elles peuvent vous tirer au contraire du mauvais côté et tomber avec vous dans le gouffre, mais ce sera l'animal préféré de Bingham. Alors, moi je vois Bingham parce que je suis assez grand aussi, j'ai de longues jambes, lui devait être très grand, il devait surtout avoir de très très longues jambes sur cette petite mule. Et on l'a toujours appelé la bête à six pattes. Parce que c'est vrai que Bingham, il avait les pieds qui traînaient par terre quand il était sur sa mule. Vous le voyez, il était toujours habillé en boy scout. On l'imagine déjà beaucoup mieux. C'est vraiment l'image de l'explorateur du début du siècle. Avec ses deux longues jambes et sa petite mule. Et il traînait comme ça sur des dizaines, voire des milliers de kilomètres. Parce qu'il a parcouru des milliers de kilomètres avec ce moyen de transport. Alors il est parti du Venezuela. Il a traversé toute la Colombie avec sa mule. Et il a, en fait, d'abord parcouru ce qu'on pourrait appeler le vieux chemin, la vieille voie commerciale, à la fois des Incas, puisqu'ils ont été si hauts, bien sûr, mais ensuite la voie de Bolivar, la voie des conquistadors, mais surtout la voie commerciale des Espagnols, qui va nous ramener petit à petit jusqu'à Lima, Lima qui va devenir la grande capitale. Fondée en 1536, ce sera le seul vrai comptoir où on va, à partir de là, monter sur Panama, décharger, traverser l'isthme de Panama à pied, recharger, remonter, rejoindre les caravelles de Veracruz et rentrer en Espagne. Vous voyez un peu le voyage. Eh bien ça, c'est le côté maritime. Il existait un côté terrestre que Bingham va suivre d'abord. Et c'est comme cela qu'il va petit à petit découvrir la terre absolument fabuleuse des Incas. Et quand il arrive à Cusco, d'abord dans la capitale, l'ancienne capitale des Incas, il va comprendre que cette signification du Tahuantinsuyu, de l'empire des quatre parties, c'est déjà un peu la base de son puzzle. C'est-à-dire qu'il va comprendre comment fonctionnait l'empire Inca. On savait peu de choses à l'époque, mais il va lire beaucoup et il va rencontrer surtout des gens très intéressants. Il va rencontrer par exemple le préfet de l'Apurímac. L'Apurímac, c'est cette rivière qui rejoint celle de l'Urubamba, enfin celle de Machu Picchu. Et avec ce personnage, ou par ce personnage, il va visiter pratiquement tous les sites possibles, et pourtant des sites qui n'ont pratiquement jamais été vus par les Occidentaux. Donc il va retrouver plusieurs villes perdues, dont une où les chercheurs... Enfin, il va lui-même s'attribuer le titre de chercheur de trésors, c'est très à la mode à cette époque, et on trouve des choses extraordinaires. On a des gens qui ont été millionnaires d'un jour à l'autre sur les terres du Pérou. Après tout, on dit encore c'est pas le Pérou, pour dire justement que le Pérou c'est quelque chose. Le Pérou, ça a été la terre fabuleuse par excellence depuis 1532. Je fais une digression parce que ça, je suis sûr qu'on en reparlera, mais 1532, c'est l'événement absolu de la civilisation que nous avons aujourd'hui. C'est la découverte de l'inflation absolue. C'est le moment où on va constituer le trésor inca, où tout à coup, sur le marché européens vont tomber des tonnes d'or qui vont complètement transformer l'économie mondiale. Ça a été le scoop de l'époque. En 1534, la Gazette de Lyon vous mettait 3 pages pour raconter comment on avait obtenu le trésor de Cajamarca et le trésor de l'Inca. Ça, on en reparlera peut-être une fois, parce que c'est vraiment une aventure d'El Dorado, enfin, par excellence. Mais Bingham, je crois qu'il a aussi saisi l'importance de ces vieilles chroniques, et puis il est allé voir un peu partout. Donc, on commence à comprendre maintenant que ce personnage qui paraît un peu rêveur, un peu romantique encore, en fait avait une grande notion, avait surtout une grande écoute. Et il a pris tous les petits morceaux du puzzle, et je crois qu'il connaissait Machu Picchu avant de le trouver. C'est très curieux, il est allé dans la seule direction où on ne serait pas allé si on était Bingham. Et il était sûr qu'il allait trouver quelque chose. Donc il a eu des informateurs, et ça on est pratiquement persuadé. Et on sait aujourd'hui surtout que Machu Picchu n'a jamais été une ville perdue, mais qu'au contraire, pendant 4 siècles, des gens y ont vécu. Et on va voir comment.
ver si puedo rescatarla con cuatro rifles rojos. A mi palomita se la han robado cuatro corazones. A ver si puedo rescatarla con cuatro rifles rojos. Fuerza sí, fuerza no, pichari niña guaybidita. Para fuerza basta yo, cuando hay canay, quitan las piernas, quitan las
Allez, cette fois, nous partons vraiment. La décision est prise. Nous sommes en juin 1911. On va vraiment partir en expédition. Cette expédition qui s'appelle Yale-Pérou, parce qu'elle est placée sous le patronage de l'université américaine. Ça, je crois vous l'avoir dit. Et c'est une université à laquelle appartient Hiram Bingham. Et il y a, naturellement, et on le sait quand on retrouve les revues de l'époque, le fameux National Geographic Society, cette fameuse société qui est derrière, et ils vont partir avec un matériel absolument incroyable. C'est déjà de la sponsorisation, puisque ce sont les grosses maisons commerçantes et commerciales de New York qui vont les aider, et on les voit arriver à Mollendo. Mollendo, c'est le port, enfin, pas loin de Callao. On est donc en fait à peu près à 1000 km au sud de Lima. C'est l'endroit le plus pratique. Le port qu'on utilisait avant se trouve à 1000 km au nord, et là on a choisi cette voie de Mollendo parce qu'on est plus près de Cusco pour acheminer ces tonnes de matériel. Et Bingham n'est pas seul, hein, attention, on parle toujours de la découverte d'Hiram Bingham. Non, il y a avec lui un géologue qui est en même temps un géographe, on aura un naturaliste, il y aura aussi quelqu'un qui s'occupe de topographie, il y a même un chirurgien. Après tout, quand on voit le nombre d'aventures, quand on lit l'ouvrage de Bingham, on se dit qu'effectivement le petit serpent sympathique, le serpent d'or et ces serpents qui vous sautent au nez et qui font des sauts d'un mètre de haut, bah, à l'occasion on peut peut-être avoir besoin d'un chirurgien. Puis il y a eu pas mal d'aventures un peu dramatiques. Il y a un ingénieur aussi. Enfin, il débarque donc à 1000 km de Lima, à Mollendo, avec des bagages pas possibles. Et c'est déjà extraordinaire d'arriver à partir de notre niveau de la mer jusqu'à Cusco à 3800 mètres, parce qu'il va falloir contourner toute la chaîne des volcans dans cette région. Il y a beaucoup de volcans du côté d'Arequipa, etc. Et puis il y a ces immenses plaines sablonneuses, qui c'est le départ, avec le côté désertique. Et finalement, si on prend la carte, bon, on est à peu près à 300 km hein, seulement de l'endroit de la découverte. C'est-à-dire que depuis la mer jusqu'à l'endroit où Bingham veut aller, il y a à peu près 300 km à vol d'oiseau. Bah, si vous prenez le vieux ferrocarril, le vieux chemin de fer du sud, je crois que vous en avez pour 800 et quelques kilomètres. Donc ça vous situe un peu la difficulté des communications au Pérou. Sachez que pour traverser le Pérou aujourd'hui, vous êtes encore sur des pistes de terre un peu partout. Il n'y a aucune route qui relie la côte à des terres d'altitude sans que vous deviez prendre le train ou que vous suiviez sur des centaines de kilomètres des pistes où vraiment même un bon camion, même un bon bus arrive en petits morceaux. Je crois que c'est important de le savoir parce qu'on oublie que le Pérou avait de meilleures communications avant l'arrivée de l'Espagnol grâce aux voies Inca, et surtout la rapidité des communications de ces voies Inca, puisque l'Inca à Cusco avait tous les jours du poisson de mer sur sa table. C'est vous dire qu'il arrivait frais. Donc il y avait un système, ce qu'on appelle les chasquis, qui se passait un peu comme on passe un jalon dans une course, tous les 3 kilomètres. Ces gens-là ne voyageaient pas. Attention, on était toujours bloqués dans les choses et dans le temps. Et un Tchaski faisait 3 km, et puis il faisait 3 km dans l'autre sens pour le message suivant, ou pour la marchandise suivante. C'est-à-dire qu'il y avait des tambos, des arrêts comme cela, et le long de ces espèces de voies royales, 12 000 km de route impeccable, où l'on pouvait aller plusieurs de front, qui était vraiment parfaite, avec des caravanes de milliers de lamas, si vous en aviez envie. Eh bien, un Tchaski ne faisait que 3 km, et il s'arrêtait, mais il passait. Donc on courait sans arrêt, ce qui fait qu'on arrivait à passer un télégramme à l'autre bout des 5000 km de l'Empire, enfin, sans trop de difficultés, dans un temps tout à fait record. En quelques heures, vous aviez des nouvelles de Quito, au fond du Chili ou en Argentine. Ça, c'était les moyens de communication de l'époque. Au moment où Bingham arrive là, effectivement, il n'y a que les chemins de fer qui ont occasionné des milliers et des milliers de morts, qui ont été construits tellement difficilement à la fin du 19e. Allez, on arrive maintenant dans la petite gare de Cusco. C'est toujours un événement, même pour nous aujourd'hui, quand on y arrive, parce qu'en principe, on fait 200 mètres, on n'a déjà plus de bagages. Là, je n'accuse personne, mais c'est vraiment l'habitude des grandes gares et des petites, d'ailleurs, sur ces trajets péruviens. Il faut être très prudent. Et on se replonge immédiatement dans cette ambiance avec toutes ces femmes qui sont assises un peu partout, ces énormes jupes, ces grosses jupes de feutrine comme ça épaisses les unes sur les autres. Chaque fois qu'elle en achète une, elle en remet une par-dessus. Et puis il y a ces fameux chapeaux qu'on a l'habitude de voir, ces chapeaux, non pas le chapeau melon, hein, le chapeau melon, ça c'est plutôt du côté bolivien, ça c'est une mode d'un pauvre anglais qui n'arrivait pas à les vendre aux hommes, et c'est les femmes qui les ont achetés. Mais non, dans la région de Cusco, c'est au contraire un chapeau tout à fait rond et plat. Il est effectivement en feutre noir, et il y a une doublure rouge avec ces galons dorés en forme de croix qu'ils ont posés sur le sommet du chapeau, avec quelques fleurs si vous êtes encore vierge et si vous voulez vous marier. Ça, c'est une façon de repérer dans la foule la jeune fille. Alors maintenant, on est vraiment toujours en train d'avancer doucement du côté de Machu Picchu. On est toujours en juillet 1911, et on va en fait suivre maintenant une voie que Bingham connaissait déjà par les chroniques, c'est-à-dire qu'il voulait suivre le chemin que Manco Inca, ça vous dit peut-être rien Manco Inca, mais Manco Inca c'est le dernier des Incas, c'est celui qui a réussi après la conquête espagnole à s'enfuir de Cusco et aller se réfugier dans la jungle où il va combattre les Espagnols et créer ce qu'on appelle le dernier petit empire perdu. Ça se passe en 1536. Je vous rappelle que Pizarro est arrivé en 1532 à Caramarca et que Cusco a été occupé en 1533, a été incendié en 1535. Donc en 1536, c'est déjà une révolte, c'est déjà une révolution à la façon sud-américaine, puisque cet Inca arrive à s'enfuir et va vivre à l'extérieur, chargé de son trésor, le trésor impérial. On rêve encore et on se rappelle très bien surtout de cet énorme disque d'or, ce disque d'or du soleil que Manco va emporter avec lui, qui ornait le grand temple du Coricancha, dont on parlait la dernière fois, l'enclos de l'or, le sexe du monde, hein, ce sexe du jaguar, qui est l'endroit le plus sacré de la ville de Cusco. On avait enlevé ce disque d'or immense, enfin, soi-disant, là je parle carrément de légende, parce que tous les Espagnols vont en parler de ce disque d'or, et il va partir du côté de la jungle avec toutes les richesses, et puis tous ses costumes en laine incroyables, finement tissés. Et c'est ce chemin que va suivre Bingham, d'abord par le Vilcanota. Le Vilcanota, c'est la rivière sacrée par excellence. On l'appelle aussi Vilcamayo. Vilcamayo, c'est un très très beau nom quechua, la langue des Incas. Ça veut dire le rio du soleil, la rivière du soleil. Donc on est encore une fois en pleine mythologie. C'est l'antique fleuve sacré de ces Incas. Et c'est important parce que quand il porte ce nom-là, il appartient totalement à l'Inca. Je veux dire que tout ce qui entoure ce fleuve n'appartient pas aux quatre fameuses parties du monde, au Tahuantinsuyu. Non, ça c'est la cinquième partie. Cette vallée sacrée, elle n'appartient qu'à l'Inca. Tout ce qu'on y a cultivé, tout ce qu'on y a produit appartient à l'Inca. Et c'est, si j'en parle, c'est parce qu'il y a Yucay, il y a ce site où qui était le lieu résidentiel, qui était un peu la zone subtropicale à quelques kilomètres de Cusco. Je vous rappelle, à plus de 3000 mètres, il fait une température comme vous l'avez à Nice. Ça vous situe un peu le miracle de l'endroit. Et bien sûr, c'est là que l'Inca venait se reposer. Et ensuite, on va descendre toujours plus bas pour atteindre Ollantaytambo. Alors là, ils étudient le site d'Ollantaytambo. Allez, je vous le décris un petit peu. C'est un endroit qui, moi, me fascine complètement. Pas seulement à cause de ces immenses monolithes, de ces six miroirs de porphyre rose qui regardent le ciel, pas à cause de toutes ces andenes, enfin toutes ces terrasses incroyables, pas à cause de ces centaines de blocs de plusieurs dizaines de tonnes qui sont abandonnés tout au long de la vallée et qu'on est allé chercher dans une carrière, vraiment à l'autre bout de la vallée. Et on peut songer la difficulté que ces gens ont eu à mettre sur des billots de bois, à faire avancer ces pierres. Les Indiens les appellent encore les pierres mortes, celles qui sont abandonnées depuis la construction, parce que c'était un site qui était en construction au moment où l'Espagnol est arrivé. Donc toutes ces pierres ont été abandonnées le long du chemin. Il y a des pierres en plein milieu du village, comme ça, de 50 tonnes, qui servent à rien. C'est comme si vous posiez une grosse boîte d'allumettes, comme ça, de la dimension d'une de nos banques, comme ça, en plein milieu d'une place, on a l'impression qu'elle est là pour rien. Et en fait, ce qui, moi, m'a fasciné encore beaucoup plus à Ollantaytambo, ce n'est pas le côté cultuel, ce n'est pas le côté rituel, c'est le village lui-même. Ça, c'est fascinant, parce que ça me rappelle déjà à l'aventure de Machu Picchu, c'est le seul village du Pérou qui a conservé ses maisons incas et tout son système d'eau. Je veux dire par là qu'il y a une deuxième petite rivière qui vient se jeter dans la vallée sacrée. Et les Incas avaient réussi par des canaux, un peu des bisses à la façon valaisanne, à créer tout un système de distribution d'eau dans le village. Alors vous avez ces rues qui sont encore pavées à la façon ancienne. Vous avez ces palais entiers avec des pierres énormes qui sont taillées parfaitement et qui ont en principe une seule entrée, c'est-à-dire l'entrée même aujourd'hui d'une ferme ou d'un ensemble de huttes qui viennent se cacher à l'intérieur des ruines de ce palais. Vous n'avez qu'une porte énorme avec un linteau de plusieurs tonnes au sommet, et puis devant vous avez une grosse dalle qui passe par-dessus un canal, c'est-à-dire que vous avez l'eau courante à la porte de tous les palais, à la porte de toutes les rues, de toutes les maisons d'Ollantaytambo. Donc vous imaginez un immense échiquier, et chaque carré de l'échiquier est un palais avec une seule porte, et entre chacun des damiers, entre chacun des carrés du damier, vous auriez de l'eau courante qui passe sous vos pieds. Vous sautez simplement ce canal et vous tombez dans la rue. Ça, c'est vraiment le miracle d'Ollantaytambo qui nous montre à quel point ces gens-là avaient un côté industrieux et en même temps une volonté de savoir vivre de façon autonome et un peu enfermée. Ça, c'est le quartier des nobles. Et on le voit en parcourant ces rues. Je pourrais le dire pour Cusco aussi, on a l'impression d'être dans une souricière. Vous vous rappelez ces labyrinthes que les souris suivent dans les laboratoires? Ollantaytambo est vraiment traité de manière orthogonale, c'est-à-dire à angle droit, et vous rentrez dans une rue et vous vous dites, mais il n'y a aucune issue, je dois suivre cette rue. On ne voit que le ciel et les pierres qui descendent à vos pieds en forme d'entonnoir, parce que les murs ne sont pas droits chez les Incas, pour mieux tenir, pour être plus solide, pour être plus éternel et antitellurique. Et cette impression comme ça de prison, c'est quand même une chose assez curieuse qu'on ressent aussi à Machu Picchu. C'est-à-dire que chaque monde, chaque élément, un peu comme dans les poupées russes, vous avez toujours l'impression que chaque morceau de la société s'enferme sur lui-même. Donc là, si je suis dans un palais d'un noble, moi, simple Pékin, passant dans la rue, j'ignore totalement ce qui se passe derrière ce mur. Donc c'est uniquement par la qualité, une fois de plus, de la taille des pierres, que je saurais lire le message de ce qui se trouve de manière aveugle derrière. Ça, je crois que c'est très, très important. Et maintenant, bon, après avoir visité Ollantaytambo, après avoir été sensible à tout ce que je vous raconte, ben, ils vont commencer maintenant, toujours à Califorchon, sur leur mule, à descendre vers le futur Machu Picchu, en ignorant toujours tout. Et là, ils n'y croient pas beaucoup, parce que ils vont se retrouver dans une vallée qui a un côté non seulement mystérieux, mais impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable voie. Et là, il faudra trouver les gens capables de les mener à leur but, ou en tout cas au pied de Machu Picchu, c'est-à-dire au pied de leur futur but.
Thank you.
Cela fait maintenant 12 jours que l'on a quitté Cusco. On vient de passer Ollantaytambo avec ses murs aveugles, avec cette souricière étrange parcourue de canaux. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi les Incas n'ont jamais eu d'ouverture sur l'extérieur. Pourquoi une maison est enfermée sur elle-même et n'a qu'une issue, qu'une seule sortie et aucune fenêtre. C'est une chose que je retrouve chez les Mayas. Une hutte maya n'a qu'une porte et n'a aucune fenêtre. C'est tout à fait l'univers précolombien. Comment vous l'expliquez en deux mots sans perdre des heures? Je crois que l'idée qui correspond tout à fait à cela, c'est que toute chose n'a qu'une issue. C'est de nouveau l'idée du labyrinthe, mais ça va beaucoup plus loin parce que il y a toujours une forme et en même temps, allez, je vais l'appeler une enveloppe, j'utilise volontiers ce terme, il y a une enveloppe et une issue. Et quand je dis une enveloppe, c'est que un vase n'a qu'un col, une tombe n'a qu'une entrée, votre tête n'a que certaines issues que, par exemple, un choix, c'est-à-dire un jivaro, hein, plutôt comme ça qu'on les connaît, va boucher quand il aura coupé votre tête. C'est-à-dire que si on garde une tête trophée, on va boucher les yeux, on va boucher les oreilles, on va boucher la bouche et on va boucher le cou. Donc il n'y aura plus de sortie possible. L'âme va rester à l'intérieur. Donc, que ce soit une tête, que ce soit votre corps, que ce soit une céramique, que ce soit une pierre, que ce soit un arbre, tout cela correspond à l'idée de l'enveloppe. Quelque chose est habité. Là, vous voyez qu'on est dans la sorcellerie, dans la magie. Machu Picchu est une enveloppe. Machu Picchu, vous n'avez qu'une entrée. Il n'y aura qu'une entrée au bout de la piste Inca. Il n'y aura aucune issue, aucune fenêtre sur l'extérieur du centre cérémoniel. À l'intérieur, vous pouvez en mettre tant que vous voulez pour des significations internes. Vous allez surtout mettre des niches. Il y a plus de niches, d'ailleurs, que de vraies fenêtres. Mais la niche peut être utilisée de manière cérémonielle. Elle a une signification. Tandis que la porte, c'est vraiment le passage, c'est l'issue qui permet de pénétrer dans une enveloppe mentale. Quand je dis enveloppe mentale, ça veut dire que le mur lui-même, du palais, du temple, de votre hutte, de votre corps, devrais-je dire, correspond à quelque chose qui, à l'intérieur, va pouvoir enfermer un pouvoir. Je parle de sorcellerie et de magie. Et ces gens-là n'ont pas une religion. Ils fonctionnent encore avec l'univers magique. Un sorcier qui se bourre de drogue peut habiter tout à coup des enveloppes particulières. Donc on a chaque fois l'impression que l'on est pris dans une bulle. Une bulle, c'est une prison. Donc, leur monde est un monde carcéral. Votre corps est carcéral. Votre âme est prise dans un monde carcéral. Votre futur, votre passé, le temps, l'espace, le cosmos, c'est encore un monde carcéral. On met des bornes partout. On enferme tout dans des boîtes. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais un peu de poupées russes. Ça, c'est vraiment l'univers... C'est un peu Kafka, en fin de compte. C'est cet univers étrange de l'Inca qui n'est pas facile à vivre et que l'Espagnol n'a absolument pas compris du tout. C'est être heureux sans jamais aucune gaieté. C'est être parfaitement heureux sans aucun ennui. Et pourtant, avec l'ennui. J'entends par là que la joie ne peut plus exister dans un régime comme celui-ci. Parce qu'au fond, on vous aide à accomplir le temps, l'énergie, la longueur de votre vie. On vous aide à la naissance et jusqu'à votre mort. Mais c'est simplement pour que vous puissiez dépenser de manière logique, divine, votre énergie. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait de dépenses inutiles. C'est une loi absolue chez les Amérindiens. Et l'Indien, regardez l'Indien qui monte à Machu Picchu, regardez l'Indien qui surveille le site, regardez l'Indien qui fait un trajet, qui marche avec ses mules ou ses lamas. Il ne court jamais. L'Indien est toujours triste, immuable, inchangé. On ne sait jamais ce qu'il pense. C'est une rue de Machu Picchu. C'est un palais d'Ollantaytambo. C'est la forme du jaguar de Cusco. C'est une chose enfermée. Derrière la façade de l'Indien, derrière la façade de l'Inca, allez savoir. Donc en fait, nous sommes chacun une construction qui s'enferme sur elle-même. Je redonde volontairement, mais c'est exactement cela qu'on ressent. Et quand on visite le Pérou, c'est la première chose, c'est le premier coup de poing qui nous arrive au milieu de la figure, la non-communication. L'impossibilité volontaire de communiquer parce que chaque chose est enfermée sur elle-même. Il faut des clés. Or, comme il n'y a pas de fenêtre et qu'on ne peut pas guigner, il faut trouver la porte. Il faut trouver la piste. Et c'est ce qu'on doit faire pour comprendre Machu Picchu. Maintenant qu'il y a 12 jours qu'on court, on est maintenant juste au pied. On arrive ici, à l'endroit où le train s'arrête aujourd'hui. Et c'est grâce à un métis qui, par oui dire, connaît bien la région, il a peut-être même voyagé, il connaît peut-être déjà le site de Machu Picchu, qu'on commence à avoir des renseignements sur les alentours. Et puis, comme on cherche des maisons un cas, c'est les paroles mêmes de Bingham, parce que je vous avoue que j'ai relu un peu son journal de bord, qui est fabuleux. Vous pouvez l'obtenir, mais pas en français. Il existe en anglais, c'est vrai. Il existe aussi en traduction espagnole, mais je ne l'ai jamais vu en français. Mais on lui dit à ce moment-là, mais écoutez, des maisons Inca, mais il y en a une pleine ville juste ici. Comment ça, juste ici? Vous êtes au fond du trou, on ne voit strictement rien, il y a des falaises impossibles. Bingham ne peut pas y croire, mais il dit, mais oui, puis en plus, là-haut, on cultive des calebasses, il y a quelqu'un qui s'occupe d'y planter un piment superbe, c'est le gros rocoto. Le rocoto, c'est un piment extrêmement prisé par les Indiens de la région, puis il y a du maïs. Enfin, on lui dit, en fait, quand on a simplement un plantage, un jardin potager, qu'il y a des cultures maraîchères juste en dessus, dans les Andes, sur les terrasses même, de ce qui sera Machu Picchu. Puis on lui dit surtout qu'il y a non seulement ces jardins suspendus, mais qu'en plus, il y a aussi ce que les Indiens du coin appellent le palais de l'Inca. Alors là, essayez de penser. Là, vous êtes au coin du feu, dans une hutte pas possible, avec des gens, parce qu'on vit assez mal dans les huttes indiennes. Je parle de confort, je parlerai même d'hygiène. Les Péruviens, par rapport aux Mexicains, par exemple, c'est l'opposé. Bah, d'abord, vous dormez par terre, il y a des cobayes, vous savez, les cochons d'Inde, les Indes occidentales, bien sûr, un peu partout. L'ambiance indienne est assez impressionnante quand on dort chez l'indigène des hauts plateaux des Andes. On a l'impression qu'on est un peu au Tibet ou dans un monde comme le Zanskar. Enfin, c'est vraiment de la haute montagne. Et là, eh bien, ce métis, il lui montre le pic qui jaillit là sur la droite comme une espèce de mât, comme un gigantesque mât. C'est le jeune pic, le Huayna Picchu. Et puis, il dit, mais là, entre les deux, de l'autre côté, on voit le vieux pic. Il dit, bah là, juste sur cette terrasse, à 600-700 mètres en dessus de nous, il y a une ville complète. Alors Bingham, il n'y croit pas, parce que personne ne pouvait songer que là-haut, il y avait des constructions. C'est un endroit tellement aberrant par rapport à la vallée où vous êtes. Vous êtes dans un endroit complètement encaissé. C'est comme si on était au fond du Grand Canyon, et qu'on vous disait « New York, c'est juste en dessus ». C'est exactement l'impression que Bingham a dû ressentir. Et bon, il faudra pratiquement une journée pour atteindre le sommet, simplement pour grimper, pour faire ce que le buste aujourd'hui l'a fait à tombeau ouvert. Et ce ne sera pas facile parce qu'il y a juste une petite sente que les Indiens utilisent. Ils pouvaient, en fait, les paysans qui vivaient en haut pouvaient descendre des deux côtés hein, de ce qu'est aujourd'hui Machu Picchu, et ils pouvaient emprunter les fameux ponts Inca, la fameuse piste Inca. Moi, je vous avoue que c'est ce que j'aime le mieux quand je reste plusieurs jours à Machu Picchu, c'est sortir de Machu Picchu pour aller voir les sites qui sont autour de Machu Picchu. C'est vraiment faire la piste Inca et aller toujours plus loin et redécouvrir un nouveau site, de nouvelles fontaines, de nouvelles grottes, de nouvelles constructions. Il y en a partout. Toute la vallée est entièrement occupée de mini-sites comme cela. Et là, on va maintenant grimper. C'est le 24 juillet. Là, oui, je suis très précis, hein, toujours en 1911. On va commencer à arriver à l'endroit qui nous occupe, c'est-à-dire qu'on va suivre ce vieux poncho rouge là, ce métis, cet indigène qui va maintenant guider la petite expédition, et on va quitter d'abord la piste de Urubamba, puis alors là carrément monter de façon tout à fait verticale. On connaît la personne qui s'est occupée de Bingham, Arteaga, parce qu'il a dû monter plusieurs fois, il devait très bien connaître l'endroit. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il a pratiquement disparu au moment où on arrivait à Machu Picchu. Vous comprenez bien la chose, c'est un endroit sacré. Il ne sait pas s'il a eu raison d'indiquer à des Occidentaux, surtout à cette espèce de grand guignol, ce scout un peu bizarre qu'était Bingham. Vous imaginez un blond, yeux bleus, avec sa grande mule, avec son côté scout, ça devait être très intriguant dans un endroit perdu comme celui-ci. Et finalement, ils arrivent à plus de 2500 mètres d'altitude, et là, il découvre le côté agricole, c'est-à-dire qu'il remarquera d'abord ses terrasses, et puis il se dit, mais enfin, c'est pas ce qu'on m'avait annoncé, parce qu'il faut comprendre que quand Bingham a découvert Machu Picchu, il y avait de la jungle partout, le site lui-même était envahi. Et là, il y a une chose qui, moi, m'a toujours fasciné, c'est la façon dont Bingham va finalement, vraiment découvrir Machu Picchu. Il va trouver là, on ne saura jamais qui c'est, ni d'où il vient, un petit Indien. C'est ce que j'appelle moi mes poissons pilotes. Parce que quand on voyage dans ces pays, on a toujours un poisson pilote. On a toujours le petit gosse de 7-8 ans pour qui on a un peu plus d'affection qu'un autre et qui en a un peu pour vous et qui a envie de rester à côté de vous. On sent ce côté un peu papa fiston qui s'installe très rapidement en quelques secondes. C'est ce qui a dû se passer pour Bingham ce jour-là. Il y a un petit Indien qui est arrivé là et au moment où il désespérait parce qu'il pensait qu'il n'y avait que les jardins suspendus, le petit Indien le prend par la main et l'amène sur le site et lui fait rencontrer non seulement quelque chose qui va lui couper le souffle. Imaginez-vous cette seconde, où tout à coup, comment on le fait encore aujourd'hui? Moi j'avoue, quand j'amène des touristes à Machu Picchu, je les embête. Je les fais un peu souffrir. Parce qu'on arrive en haut, c'est confortable, vous avez le self-service, allez là, je vous coupe carrément de vos rêves, hein, le self-service, les petits plateaux, etc. Vous devez manger à midi, etc. Bon, laissons tomber. Et au lieu de rentrer sur le site comme tout le monde, Je prends la première porte du site et je grimpe carrément jusqu'au sommet de la piste Inca. C'est-à-dire, je rejoins la piste Inca qui arrive par les sommets. Et là, sans qu'ils s'en rendent compte, ils vont se retrouver d'un seul coup devant le vrai panorama que tout le monde attend. C'est-à-dire cette incroyable vision de Machu Picchu avec toute la zone agricole devant vous, cette muraille, la seule porte, et puis la chute de tous ces quartiers et au fond le pain de sucre parfait. Quand on a cette vision, c'est celle qu'a eu Bingham, bah là tout à coup on découvre le miracle. Ça a dû être une seconde inoubliable avec son petit Indien qui lui décrit l'endroit et qui maintenant le prend par la main une fois de plus et lui donne son premier parcours à l'intérieur des ruines. Parce que ces ruines, elles ne sont pas vraiment habitées, mais ce qui va troubler d'abord Bingham, c'est de se rendre compte que l'endroit était connu et que les paysans utilisaient des ruines précolombiennes pour leurs fermes, pour vivre, pour cultiver. Et que vous aviez tout un système agricole qui était resté installé certainement là depuis le XVIe siècle sans que personne n'en parle à Cusco. On a retrouvé avec le temps des chroniques qui nous montrent qu'au XVIIIe siècle, un tel a échangé la propriété de Machu Picchu et que ce sont des Indiens qui continuent à l'exploiter. On est remonté un peu dans l'histoire. Mais c'est assez fou de penser que dans un endroit dont personne n'avait jamais entendu parler, bah c'est un peu comme si vous viviez sur, je ne sais pas, les ruines de Pompéi, si vous voulez, sans savoir que vous êtes dans du romain. La prochaine fois, on s'imaginera ces quelques heures qui vont suivre. Celle où Bingham va petit à petit, même s'il ne l'a pas fait d'un coup, découvrir chacun des monuments importants de Machu Picchu, toujours avec cette petite main dans la sienne. Et puis, quand on aura terminé la visite, et c'est ce qui s'est vraiment passé pour Bingham, bien, au détour du dernier rocher, avec un grand sourire, l'enfant va partir avec son petit poncho et disparaître pour toujours. Pour Bingham, j'imagine, c'est quand même une drôle de question, non? Vous avez un tout petit gosse qui vous amène à la gloire, parce qu'en fait, c'est vraiment sa gloire d'avoir découvert Machu Picchu. Vous ne savez même pas comment il s'appelle, qui c'était. Ce petit gosse de 10 ans ou 8 ans, pouf, il disparaît comme il est apparu. Je trouve que l'image est très belle par rapport à ce que Bingham va encore devoir maintenant vraiment découvrir. C'est ce que nous ferons la prochaine fois.